Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de notre programme du week-end. L'équipe de Radio Prague vous propose, comme d'habitude, une rubrique consacrée à la culture et puis une rencontre littéraire. Nous allons d'abord évoquer la place de la satire politique dans l'art et la vie publique tchèque. Nous allons revenir sur quelques exemples phares de ce format très populaire. Puis, dans la seconde partie de notre émission, Václav Richter évoquera l'entrée de la bande dessinée à l'université. Vous écoutez Radio Prague, très bonne écoute. Une satire a pour objectif non seulement de se moquer, mais aussi de provoquer un changement de la situation de laquelle elle se moque. La satire politique se trouve ainsi à la frontière entre l'art et un appel à l'action politique et citoyenne. Depuis 10 ans, ce genre théâtral minimaliste se développe en République tchèque, surtout en réponse aux différentes affaires de corruption. À chaque fois, le succès est garanti d'avance. Est-ce une expression du cynisme de la nation du bon soldat Schweik ou bien un signe de la sensibilité citoyenne?
Culture sans frontières.
Les satires politiques peuvent prendre des formes très variées, à commencer par l'événement le plus récent. Au début du mois de mai, l'association civique Forum Pragois a mis en scène une reconstruction de l'affaire OpenCard. Leur objectif était d'attirer l'attention sur le fait que dans cette affaire, seuls les fonctionnaires ont été condamnés, y compris le lanceur d'alerte qui a révélé les pratiques de corruption à la police. En une courte performance qui s'est tenue devant la Chambre des députés, les activistes ont mis en scène la sélection truquée qui a eu lieu lors de l'appel d'offres publiques pour la mise en place de OpenCard, une carte multi-usage qui sert notamment pour les transports en commun à Prague. Teresa Kniežurková, directrice du Forum Pragois, décrit la scène.
Politik po zasloužené práci odchází na dovolenou do Himalájí.
Vous avez vu la reconstruction de l'affaire OpenCard. Il y avait un fonctionnaire de la mairie qui a signé le contrat pour OpenCard. Mais comme on a vu, en effet, c'était monsieur le maire, Pavel Bem, qui a signé. Le fonctionnaire qui était le responsable a été arrêté. Et la situation, en réalité, c'est exactement cela.
Les auteurs de ce happening ont déjà organisé plusieurs manifestations au sujet de l'affaire OpenCard et leurs activités à cet égard s'intensifient car la date de prescription de ces crimes s'approche. Après septembre 2013, plus personne ne pourrait être accusé dans le cadre de ce dossier. Teresa Kniežurková explique pourquoi la mise en scène en forme d'une courte satire politique a été choisie.
Il y a deux raisons pour cela. C'est une forme visuelle qui est très proche aux médias. Les journalistes peuvent faire la photo. Et c'est, si vous voyez monsieur le maire qui signe le contrat au lieu de l'officier, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème. Et où est le problème? Et il n'y a pas la peine de l'expliquer longuement.
La satire sur l'affaire OpenCard, préparée pendant 3 jours, a donc eu sa première et en même temps sa dernière performance dans les rues de Prague. L'attention qui lui était dédiée dans les médias se base néanmoins sur une tradition de farce politique très populaire en République tchèque. Le symbole des satires, c'est une lecture scénique de l'auteur Petr Čtvrtníček qui réagissait à la publication des écoutes policières des 2 personnages centraux dans scandale de corruption au sein de football tchèque, et cela en 2004 et 2005. La pièce reprenait les dialogues téléphoniques entre Milan Brabec, ex-vice-président de la Fédération tchèque de football, et Ivan Hornik, ex-manager du club de Viktoria Žižkov. Les acteurs Jiří Labus et Petr Čtvrtníček ont fait le tour du pays avec ce spectacle s'intitulant « Ivanko kamaráde, můžeš mluvit » ou approximativement « Ivan, mon pote, tu peux parler ». La lecture scénique a été si populaire qu'une version avec traduction simultanée en français a même été publiée. quand en 2011, un autre groupe d'acteurs annonçait une satire politique au sujet d'une affaire impliquant la députée du parti Affaires publiques, Cristina Cocci, la parallèle a vite été faite et les gens se réjouissaient de voir en spectacle Yvan Mon Pote numéro 2. Avant d'évoquer ce projet avec la protagoniste principale, l'actrice Barbora Polakova, écoutons un extrait de la chanson qui clôture la pièce dénommée « La bête féroce blonde ». Je suis innocente », ce sont les paroles de cette chanson qui résument l'idée principale du spectacle. En effet, en 2011, un membre du Parti Affaires publiques, à l'époque parti membre de la coalition gouvernementale, a enregistré en cachette sa rencontre avec la jeune députée Cristina Cocci. Dans cette rencontre, la femme politique affirmait ses plans de fonder un nouveau parti et dévoilait les dynamiques cachées de la scène politique, ainsi que ses rapports intimes avec certains de ses représentants à l'époque. Barbora Polakova explique l'origine de l'idée d'en faire un spectacle.
L'idée est venue du metteur en scène et acteur Andrzej Pavelka suite à l'apparition dans les journaux des retranscriptions d'une réunion entre Cristina Cocci et deux autres membres du parti Affaires publiques. Andrzej Pavelka a porté le texte à notre répétition d'un spectacle, Miel, Met, qui se joue encore au A Studio Rubin. À la base, l'objectif n'était pas de créer un spectacle pour le public ordinaire. Au contraire, c'était un jeudi et nous avons décidé de faire une blague pour nos amis le dimanche.
Mais en très peu de temps, leur aventure a gagné la popularité nationale et Barbora Polakova explique pourquoi.
Nous n'avons pas joué beaucoup de reprises, au maximum 6. La popularité que cette lecture scénique a gagnée découle de l'intérêt accru de la part des journalistes. Si dans la Studio Rubin, il y a quelques 65 places, lors de la première, il y avait 60 journalistes et plusieurs hommes politiques. Si au départ on voulait le faire pour des amis, il est clair qu'ils ne sont pas rentrés dans la salle ce jour-là, tellement elle était blindée. Mais nous avons joué la pièce seulement quand la thématique était d'actualité. Au bout d'un mois, il y avait tellement d'autres affaires que celle de Cristina Cocci n'était plus à l'ordre du jour.
Barbora Polakova remarque aussi que jouer la jeune députée était une expérience professionnelle très particulière.
Cristina Cocci est venue assister une fois au spectacle et j'étais très mal à l'aise. Imaginez que la personne dont vous moquez vous regarde en même temps. En plus, c'était dans une salle pour 300 personnes, alors vous avez 300 personnes qui rigolent grâce à vous sur son compte. Même si j'avais ma propre opinion sur cette affaire, j'étais triste pour elle. Mais quand elle n'était pas présente, on rigolait bien. Ses écoutes étaient extrêmement drôles déjà sur papier.
Après quelques reprises, le spectacle s'est arrêté, seulement pour reprendre un an plus tard, en 2012, sur une thématique similaire.
Pendant un an, nous n'avions pas eu de raison de revenir à ce spectacle. Mais à peu près un an plus tard, l'affaire du député social-démocrate David Rat a éclaté. Ainsi est venue l'inspiration pour le second épisode de La Bête féroce, qui avait à nouveau peu de reprises, entre 8 et 10. À nouveau, la logique était dictée par l'actualité.
David Rat, accusé de corruption et de manipulation d'appels d'offres publiques, a été arrêté en mai 2012. Relâché en novembre 2013, après plus d'un an de détention préventive, son procès ne s'est toujours pas achevé. Les acteurs se sont concentrés cette fois-ci sur la reconstruction du moment de son arrestation. David Rat était en effet attrapé par la police tchèque en possession d'une boîte dans laquelle se trouvaient 7 millions de couronnes, environ 280 000 euros, de l'argent qui venait de lui être remis sous forme de pot de vin. Le député affirmait qu'il n'était pas au courant de la présence de l'argent dans son sac. Il considérait qu'il y avait une bouteille de vin. Dans le spectacle, les acteurs ont ainsi engagé le magicien Roman Stabrniak qui a dû prouver en session plénière de la Chambre des députés qu'il était possible de transformer le vin en argent. Ces satires, jouées systématiquement à guichet fermé et ayant une longue vie sur les réseaux sociaux, sont donc très populaires. Mais le réalisateur vise non seulement la moquerie, mais aussi un remède à la situation. Nous écoutons Barbora Polákova.
Nous aimons bien rigoler de ces choses-là, mais je crains que cela s'arrête un peu là. En tant qu'acteur de cette satire, nous avions voulu attirer l'attention sur ces pratiques de corruption et des calculs politiques pour que quelque chose change, pour révolter les gens. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas sûre si nous avions pu avoir une influence quelconque.
Cela pose donc la question de l'efficacité d'un engagement des acteurs en faveur d'une cause, limitée peut-être par le caractère minimaliste de ces spectacles montés en quelques jours et performés une dizaine de fois seulement. En même temps, leur caractère éphémère renforce encore plus leur message qui se rapporte fortement à l'actualité du jour. Certains ont néanmoins voulu maintenir ces spectacles, notamment le réalisateur et acteur Tomáš Svoboda. Au prix de les transformer en divertissement des masses, Tomáš Svoboda a lancé en 2013 un cabaret politique qui se tient dans les grandes salles de théâtre et du cirque. Au cœur de la pièce, qui s'intitule Miloš Ubo, presque roi, est le chef d'État Miloš Zeman, apparenté au personnage principal d'une pièce de Alfred Jarry, le père Ubo. En voici un petit extrait.
Čo je, ty je Miloši Ubu?
Má výrozu.
Ja jak vidím plenoty, tak si mi
Cette scène fait référence à un épisode désormais notoire quand le chef d'État, Miloš Zeman, perd son équilibre au moment d'une cérémonie officielle. Les nombreux observateurs dénoncent qu'il était ivre à ce moment-là. Ses assistants, en revanche, assurent que le président avait de la fièvre. Le journaliste tchèque Petr Fischer apprécie ce nouveau format du cabaret politique sous la direction de Tomáš Svoboda.
Když známe tu slavnou inscenaci Činoherního klubu, tak víme, že vlastně ta podobnost...
Et si nous connaissons la très célèbre pièce Roi Ubu jouée à Prague à Činoherní klub depuis des années, il est facile de se rendre compte que ce personnage caricatural ressemble pas mal au chef d'État tchèque. À mon avis, la pièce Miloš Ubu est la première tentative de transposer la politique tchèque dans un contexte artistique plus large. Jusqu'alors, nous avions vu des projets qui mettaient fidèlement en scène les événements réels. Le spectacle Miloš Ubu nous offre la possibilité de réfléchir de manière plus globale sur ce qui se déroule dans ce pays.
À la fin du mois d'avril de cette année, le cabaret de Tomáš Svoboda a inauguré le second épisode de Miloš Ubo, qui inclut plusieurs d'autres personnages. Le réalisateur explique les raisons d'être de cette nouvelle adaptation.
Nous avons tenté de créer notre propre pièce de théâtre basée sur l'original d'Alfred Jarry. Mais nous avions vite compris que le personnage du roi Ubu, plus précisément donc de Miloš Zeman, cède la place sur la scène politique aux autres acteurs comme Andrei Babiš, Tomio Okamura ou même Vladimir Poutine. Nous avons ainsi créé ce second épisode de Miloš Ubu afin de refléter ces évolutions et notre cabaret vise dans l'avenir à réagir à l'actualité politique.
À voir donc où ce format populaire de la satire politique évoluera. Il est clair désormais qu'il a aussi ses adversaires qui opteront dans l'avenir pour les manifestations ponctuelles, plus éphémères, mais aussi plus spontanées. La bande dessinée s'impose de plus en plus sur le marché des livres en République tchèque et désormais elle attire aussi l'attention des chercheurs et des universitaires. La bande dessinée fait donc son entrée à l'université. Plus de détails avec Václav Richter dans sa rubrique littéraire.
Rencontre littéraire. « Pendant longtemps, la bande dessinée a été considérée comme une enfant illégitime de la littérature et du dessin. Cette bâtarde ne pouvait pas prétendre au rang de ses illustres parents, n'était pas admise dans le monde de l'art et n'était tolérée que comme un phénomène marginal réservé aux enfants. Il lui a fallu traverser une longue période d'émancipation avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Sa popularité ne cesse de croître. Elle est devenue une source d'inspiration pour le cinéma et la télévision. On lui réserve des rayons spéciaux dans les librairies. Elle devient même l'objet d'études universitaires. Le 26 avril dernier a été organisé dans la ville de Olomouc un colloque intitulé « La bande dessinée tchèque et la culture visuelle des années 1960-1980 ». Une vingtaine de chercheurs ont présenté leurs interventions dans le cadre de ce colloque organisé par le Centre des études de la bande dessinée de l'Académie des sciences tchèques à l'Université d'Olomouc. C'est donc sous l'égide de ces deux institutions vénérables qu'a été évoquée l'étape cruciale de l'évolution de la BD tchèque et slovaque et ses répercussions dans les autres domaines de la culture populaire en Tchécoslovaquie. Le colloque a eu lieu en marge d'une rétrospective du dessinateur Kaja Saudek, le roi de la BD tchèque. C'est ainsi que le grand public a appris l'existence du Centre des études de la bande dessinée, fondé en 2013 par l'Institut de la littérature tchèque de l'Académie des sciences en coopération avec l'Université Palatsky d'Olomouc. Pavel Kožinek est un des chercheurs du centre qui se propose de développer et de cultiver les recherches tchèques sur la BD et de devenir une plateforme d'échange d'informations, de documentation et de connaissances sur ce phénomène. Il explique pourquoi il faut étudier la bande dessinée.
Těch důvodů je podle mě spousta. Tak jednak protože
il y a beaucoup de raisons. Il me semble que c'est un produit culturel intéressant, un ensemble d'œuvres artistiques intéressantes ou culturelles, si nous ne voulons pas la considérer comme un art, un phénomène qui vaut la peine d'être étudié déjà pour connaître notre tradition culturelle et pour découvrir ses origines. Même si nous ne concédions à la BD aucune valeur artistique et n'admettions pas qu'elle puisse être une œuvre d'art fascinante, la BD resterait quand même un moyen unique permettant de nous connaître nous-mêmes et de connaître notre histoire.
Bien que Pavel Kožinek admette que, par son essence même, la BD est un art populaire et se situe donc aux antipodes de l'art officiel, il remarque que l'art populaire reflète l'actualité beaucoup mieux que le grand art, souvent élitiste. Ainsi, d'après Pavel Kožinek, en étudiant la BD, nous pouvons apprendre, par exemple, comment a évolué la lecture pour les enfants et quelles ont été les opinions à son propos au cours du XXe siècle. C'est un thème intéressant, affirme-t-il, parce qu'il nous révèle notre perception de l'enfant. Nous pouvons donc étudier la bande dessinée en tant qu'une œuvre d'art, comme un produit culturel, mais aussi comme un témoignage sur son époque. Pavel Kožinek souligne également que la BD évolue toujours vers une plus grande diversité thématique et que le temps où elle ne savait raconter que des histoires simplettes pour enfants ou des récits d'aventure est déjà révolu.
La BD offre aujourd'hui une large gamme de genres. C'est une forme qui couvre tout, qu'il s'agisse de l'exploration de l'espace, des profondes confessions personnelles, de la littérature pédagogique et de la vulgarisation scientifique, des biographies de personnalités célèbres, des récits d'aventures captivants, etc.
Les chercheurs du Centre des études sur la bande dessinée ont déjà publié deux importants ouvrages. Dans la monographie collective intitulée « Les signaux venant de l'inconnu », ils retracent l'évolution de la bande dessinée tchèque entre 1922 et 2012. Les 12 chapitres de la monographie évoquent les différents aspects de la BD tchèque, dont entre autres la gamme des sujets traités par les auteurs de la BD, les répercussions de la BD sur le cinéma ou dans les arts plastiques. Et la monographie n'oublie pas non plus les auteurs tchèques connus ou un peu oubliés de la BD. Une attention minutieuse est prêtée au rapport entre la BD et l'idéologie et à l'exploitation de la BD dans la publicité. En 2012, les chercheurs du centre ont réuni dans un volume les textes présentés dans le cadre d'un colloque intitulé « Études sur la bande dessinée, potentialités et perspectives » organisé dans la ville de Lomont en 2011. Les auteurs des textes proposent leur définition de la BD, un aperçu de son évolution et de diverses écoles qui se sont formées au cours de son histoire. Plusieurs chapitres sont consacrés aux différentes méthodes d'analyse scientifique de la BD. Les auteurs constatent aussi que l'arrivée de la numérisation ne restera pas sans conséquences sur la bande dessinée. Pavel Kojinek estime que les nouvelles possibilités technologiques pourraient se répercuter aussi sur la forme de la BD.
À l'heure actuelle, nous pouvons observer une assez intéressante transformation technologique de la BD qui se détache peu à peu de sa forme sur papier et s'impose de plus en plus dans le domaine numérique. Le développement des smartphones et des tablettes apporte la première possibilité vraiment fonctionnelle de distribution numérique de la BD et il est donc de plus en plus courant de lire une BD sur une tablette. C'est donc dans ce sens-là que la BD pourra évoluer. On peut se demander bien sûr dans quelle mesure ce transfert technologique se répercutera dans la forme même de la bande dessinée. Il semble cependant que l'avenir de la BD pourrait être dans la distribution numérique.
Budoucnost komiksů v současné době se zdá, že může být třeba v té digitální distribuci.
Face à la popularité croissante et à l'émancipation de la bande dessinée par rapport aux autres phénomènes culturels, on finit par se demander si elle ne peut pas être mieux exploitée par les pédagogues et même si elle ne doit pas être enseignée à l'école. Pavel Kojinek souhaiterait lui aussi que la BD joue un rôle plus important dans l'enseignement, mais il reste réaliste.
Certainement, la BD pourrait s'intégrer d'une certaine façon dans l'enseignement à l'école et je le trouverais utile. Par contre, je ne suis pas assez dogmatique pour prétendre qu'il faut enseigner l'histoire de la BD lorsque nous n'enseignons pas d'une façon systématique l'histoire de l'art plastique, l'histoire du théâtre, etc. La BD est cependant très bien utilisable pour l'enseignement d'autres matières et peut très bien illustrer certains thèmes et susciter la réflexion sur la portée de ces thèmes. Idéalement, il serait bien d'enseigner la BD, mais je ne pense pas que le système scolaire soit préparé pour une telle tâche.
En République tchèque, la BD a fait de grands progrès. Comparée aux pays voisins, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la BD tchèque peut se vanter de toute une série d'auteurs talentueux dont les œuvres sont appréciées et même publiées à l'étranger. Comparée aux grandes puissances de la bande dessinée dont la France, où paraissent annuellement des centaines de nouveaux albums, le rôle de la BD tchèque dans la vie culturelle du pays est certes beaucoup plus modeste, mais selon Pavel Kojinek, elle continue à évoluer et à affermir sa position.
Il y a certainement une tendance importante que nous pouvons observer au cours des trois dernières décennies dans la BD tchèque, mais aussi dans la BD en général. Elle se tourne de plus en plus vers le lecteur adulte. Pendant la majorité du XXe siècle, la BD tchèque a été destinée aux enfants et cela a été décisif pour sa forme et son contenu. Cela a changé. À l'époque actuelle, la situation s'inverse. La BD tchèque actuelle est plus souvent destinée aux adultes et la BD pour enfants ne fait que vivoter au cours de ces dernières années. Je ne sais pas quelle sera l'évolution de la BD dans l'avenir, mais je crois qu'elle devrait conserver surtout ce qu'elle sait faire le mieux, l'art de raconter des récits captivants.
Jinak myslím, že komiks by si měl hlavně zachovat to, co umí nejlépe, a to je vyprávět zajímavé příběhy.
Ainsi s'achève notre émission de ce week-end, une émission préparée par l'équipe de Radio Prague et présentée par Lucie Drexelová. Merci d'avoir suivi ce programme. À très bientôt sur les ondes de Radio Prague.